So it's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America.
J'accepte votre nomination pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Joe Biden officiellement intronisé candidat démocrate pour défier Donald Trump au mois de novembre. Le masque obligatoire dans les salles et les couloirs pour les collégiens et lycéens, annoncé hier soir de Jean-Michel Blanquer, qui ne repoussera pas la rentrée malgré les demandes des syndicats.
C'est un sentiment de ne pas être entendu, que finalement tout va se passer correctement, alors que sur le terrain, c'est pas ce qu'on ressent.
Dans ce journal également, comment éviter la foule sans gestes barrières à Paris dimanche pour la finale du PSG? Comment s'assurer que la Ligue 1, qui redémarre aussi ce soir, soit épargnée par l'épidémie? L'inquiétude qui grandit autour de l'état de santé de l'opposant russe Alexei Navalny. Et puis des binocles pas comme les autres aux enchères au Royaume-Uni.
On a découvert une paire de lunettes et une petite note. Ces lunettes ont appartenu à Gandhi. Passez-moi un coup de fil.
Certainement l'une des paires les plus chères de l'histoire à Bristol cet après-midi. Votre invité politique après ce journal, François.
La ministre des Sports, alors que la Ligue 1 reprend ses droits avec des stades limité à 5000 personnes. Est-ce viable? Et comment gérer les supporters du PSG dimanche soir s'ils sont champions d'Europe? Entre crise sanitaire et péril économique, Roxana Maracineanu, invitée d'Europe 1 dans un quart d'heure. Excellente matinée à tous, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il a attendu ce moment quasiment toute sa vie, pouvoir prononcer ces mots. J'accepte votre nomination comme candidat à la présidence des États-Unis. Joe Biden officiellement intronisé cette nuit par le Parti démocrate pour le scrutin de novembre. Un discours qui était lui aussi très attendu. Xavier Yvon, on sait que Joe Biden n'a pas toujours été grand orateur. Il est même moqué pour ça par Donald Trump. Mais sa performance de ce soir a été plutôt saluée.
Oui, c'était le discours le plus important de sa carrière politique, pourtant très longue, et on peut dire qu'il l'a réussi. On a vu un Joe Biden déterminé et passionné, loin de la caricature de grabataire endormi qu'en font Donald Trump et les Républicains. Joe Biden a d'abord attaqué l'actuel président et sa gestion de la pandémie. S'il est réélu, il y aura encore trop de morts, a dit l'ancien vice-président, qui s'est présenté comme l'anti-Trump, celui qui remettra de la compassion et de la décence à la Maison-Blanche, qui croira en la science, qui arrêtera de flirter avec les dictateurs. Joe Biden a listé ses quatre chantiers prioritaires, la pandémie, la crise économique, le racisme et le changement climatique. Dès le premier jour de son mandat, il promet une stratégie nationale contre le coronavirus, avec notamment port du masque obligatoire dans tout le pays. Ensuite, dit-il, il sera temps de reconstruire l'économie en mieux, en plus juste pour la classe moyenne, avec plus d'impôts pour les grandes entreprises, des investissements massifs dans l'énergie verte. Ensemble, nous allons faire sortir l'Amérique de cette saison de ténèbres, conclut Joe Biden, avant de sortir du centre des congrès pour aller saluer de loin la poignée de partisans qui regardaient son discours sur un écran géant depuis leur voiture.
Merci à vous, Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
En France, il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire. Confirmation apportée hier soir par Emmanuel Macron et détaillée ensuite par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Invité du 20h de France 2, les élèves retrouveront donc bel et bien le chemin des classes le 1er septembre prochain et ils devront le faire avec un masque, en classe comme dans les couloirs, au collège et au lycée.
L'éducation n'est pas une variable d'ajustement ni de notre société, ni d'une crise sanitaire. L'éducation, elle est plus importante que jamais.
Donc la rentrée, ça sera 31 août pour les profs et le 1er septembre pour les élèves?
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors il peut y avoir des exceptions locales, hein, c'est un des points majeur de préparation de la rentrée. Mais si vous voulez, le protocole qui a été élaboré au mois de juillet prévoit tous les types de situations. Ça peut être la fermeture d'une classe, la fermeture d'une école. C'est avec les autorités de santé que nous décidons. Notre objectif, c'est notamment d'être capable de réagir dans les 48 heures à chaque fois que des symptômes sont signalés en termes de tests de l'ensemble des personnes qui sont en contact.
Et les cantines rouvriront aussi, a dit Jean-Michel Blanquer. Réaction ce matin du syndicat SNUIPP qui demandait avec insistance un report d'une semaine pour mieux préparer cette rentrée. Écoutez sa porte-parole, Guylaine David.
C'est un sentiment de ne pas être entendu, que finalement tout va se passer correctement, alors que sur le terrain, c'est pas ce qu'on entend et c'est pas ce qu'on ressent de la part des enseignants et voire même des parents d'élèves qui sont très inquiets. Le premier problème, c'est le flou du protocole. Il a précisé qu'effectivement, la restauration scolaire aurait lieu de façon ordinaire, des brassages d'élèves limités, mais c'est pas empêché. Donc ça veut dire que on va avoir des groupes qui vont se côtoyer dans l'école, et lorsqu'on aura un cas, dans une classe, il faudra qu'on ferme plusieurs classes. Et ça, ça pose problème, parce que notre volonté, elle est bien de ne pas fermer les écoles sur cette année scolaire.
La porte-parole du syndicat enseignants SNUIPP, Guylaine David, elle répondait à Marion Gauthier.
Europe 1, 8h05.
Les cas de contamination au coronavirus continuent de grimper en flèche.
Plus de 4700 en 24 heures, c'est du jamais vu depuis le déconfinement, et le taux de tests positifs augmente fortement lui aussi. Même tendance ailleurs en Europe, en Allemagne, en Italie ou en Espagne.
Et cette inquiétude des autorités à Paris. Comment éviter une foule rassemblée dimanche soir pour la finale de la Ligue des champions du PSG?
Il n'y aura pas de fan zone dans la capitale. Ça aurait été le risque de créer un cluster géant. Mais ça paraît difficile d'arriver à éviter d'éventuelles scènes de liesse en cas de victoire sur les Champs-Élysées. D'où l'appel, un peu désemparé, de l'adjoint en charge de la sécurité à Paris, Nicolas Nordmann. Il en appelle à la responsabilité de chacun.
Ce que nous demandons, nous, et dans la perspective de dimanche, c'est que, compte tenu de cette situation très exceptionnelle de crise sanitaire, les gens, dans la mesure du possible, regardent le match chez eux, puissent éventuellement aller dans des lieux qui sont des lieux, par exemple des bars en effet, mais qui respectent les protocoles sanitaires qui ont été édictés. Et donc, nous voulons au maximum éviter les rassemblements de grande ampleur.
Alors comment parvenir à éviter ces rassemblements à Paris dimanche soir? L'inquiétude de l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge de la sécurité, invité hier soir de François Claus. On en reparle avec l'invité politique d'Europe 1 après ce journal, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Alors qu'en prévision de cette finale Paris-Munich dimanche, la préfecture des Bouches-du-Rhône interdit le port du maillot parisien dans le centre-ville de Marseille au moment du match pour prévenir, je cite, tout trouble à l'ordre public sur fond de rivalité entre supporters des deux clubs. C'est vrai qu'il y a déjà eu des heurts ces derniers jours. En attendant, c'est la Ligue 1 qui redémarre ce soir avec quelques chamboulements liés au Covid. Première affiche à 19h, Bordeaux reçoit Nantes. Non sans inquiétude au sein des clubs sur la capacité à mener cette saison particulière à bien. Corinne Boulou.
Évidemment qu'il va y avoir une incidence sur les résultats, sur les formes des effectifs. Mais après, est-ce qu'on peut prendre le risque de faire jouer des joueurs qui peuvent être malades sans le savoir encore? Je ne pense pas.
Le virus qui a provoqué l'arrêt brutal du championnat mi-mars est toujours au centre des préoccupations 5 mois plus tard, comme le reconnaît Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille. Il faut faire avec, se plier aux codes sanitaires stricts, imposant notamment au club de procéder à un test des joueurs 72 à 48 heures avant chaque match. Au besoin, une commission Covid statue sur d'éventuels reports, comme dans le cas de Marseille. Pour Saint-Étienne, qui aurait dû ce soir se présenter sur la pelouse du Vélodrome, ce premier faux pas pose question, selon Xavier Tuileau, directeur général des Verts.
Comment on fait pour garder des compétitions équitables avec un calendrier qui fait les montagnes russes? Et comment on peut en arriver à une situation où en fait on n'a aucune idée, selon les cas de figure qui se profilent devant nous, de report, voire d'annulation s'il n'y a pas de place dans les calendriers, on part dans une compétition sans avoir le mode d'emploi.
D'autant que cette reprise est vitale pour l'économie des clubs professionnels, contraints à une jauge de 5000 spectateurs et donc déjà un manque à gagner.
Corinne Boulou.
Dans un instant, la suite du journal de 8h et l'opposant russe Alexeï Navalny qui est au plus mal. Son état de santé ne permet pas de l'évacuer vers l'étranger. A tout de suite. Un avion médicalisé a bien décollé peu avant 5h ce matin d'Allemagne, direction la Russie. Mais la figure de l'opposition russe, Alexeï Navalny, ne pourra pas y monter cet après-midi.
Son état de santé est trop fragile, disent les médecins. Après la tentative d'empoisonnement dénoncée hier, Navalny reste dans son hôpital de Sibérie, ce qui fait craindre à ses proches qu'il ne survive pas. Emmanuel Macron lui proposait l'asile politique. Le Kremlin, lui souhaite un bon rétablissement. Ironie du sort, alors que pour de nombreux observateurs, la thèse de l'acte directement orchestré par Moscou ne fait pas vraiment de doute. Nicolas Tonev.
Le son au téléphone est glaçant, un râle de douleur extrême dans un avion. Puis peu après, l'atterrissage d'urgence à Omsk, l'image furtive d'Alexeï Navalny inconscient, inerte sur un brancard. Quelques heures plus tard, le diagnostic prudent du médecin en chef de l'hôpital numéro 1.
Le diagnostic n'est pas clair encore. On a réussi à le stabiliser naturellement. Les traitements sont en cours 24 heures sur 24. Il est en soins intensifs, sous une surveillance permanente.
Mais pour l'opposition, aucun doute, c'est la tasse de thé bue avant le décollage par Alexeï Navalny qui est responsable de son état. Un empoisonnement en bonne et due forme estime sur la télévision russe Dosht Sergueï Gouriev, professeur d'économie, lui-même réfugié à Paris.
Bien sûr que c'est une tentative de meurtre. Effectivement, c'est difficile d'appeler cela autrement. On ne sait pas exactement qui a commandé cet acte et qui a exécuté ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de le tuer.
L'organisation d'Alexei Navalny, le Fonds de lutte contre la corruption, réclame l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat sur une figure publique.
Au Mali, la junte militaire annonce la réouverture des frontières aériennes et terrestres ce matin et la mise en place prochainement d'un président de transition qui sera soit un civil, soit un militaire. Les pays voisins réclament toujours le retour du président déchu Ibeka. Ils envoient une délégation à Bamako.
Une situation toujours extrêmement préoccupante sur le front des incendies en Californie qui connaît une vague record de chaleur.
Plus de 120 000 hectares ravagés, des centaines de milliers d'habitants évacués dans la région de San Francisco. Il y a au moins 2 morts, dont un pilote d'hélicoptère bombardier d'eau qui s'est écrasé. Le processus a commencé pour l'enfouissement au large de l'île Maurice de la proue du vraquier qui s'est échoué fin juillet, provoquant une marée noire. La partie avant de ce bateau va être coulée à 3000 mètres de profondeur, à 15 km au large des côtes. Sa partie arrière est toujours échouée sur le récif, souillée par près de 1000 tonnes de fioul.
Enfin, elle a fait un immense périple de l'Afrique du Sud à l'Angleterre. On vous parle ce matin d'une petite paire de lunettes rondes.
Des lunettes qui seront les stars aujourd'hui d'une vente aux enchères à Bristol, au Royaume-Uni. Monture estimée à plus de 15 000 euros. Vous vous doutez bien qu'elles n'appartiennent pas à n'importe qui. Pionnier de la résistance à l'oppression, organisateur de la Grande Marche du Sel, héros de l'indépendance indienne. Et oui, ces lunettes appartenaient bien au Mahatma Gandhi et elles ont failli,
Gandhi,
c'est incroyable.
Gandhi,
effectivement, et elles ont failli finir, c'est incroyable, à la poubelle, Pauline Jacquot.
Comme tous les matins, Andrew Stowe se gare dans la zone industrielle de Bristol, sur le parking de la maison de vente aux enchères qu'il dirige. Mais ce lundi de juillet, il voit dépasser une enveloppe de sa boîte aux lettres. Elle était à deux doigts de tomber par terre. Un de mes collègues a ouvert l'enveloppe. On a découvert une paire de lunettes et une petite note. Ces lunettes ont appartenu à Gandhi. Passez-moi un coup de fil. Andrew s'exécute. L'homme de 80 ans lui raconte alors que dans les années 20, en Afrique du Sud, son oncle travaillait pour British Petroleum et que Gandhi lui aurait donné à ce moment-là cette fine monture plaquée or en guise probablement de remerciement. Après quelques vérifications des appels à différents musées d'Angleterre, oui, ce sont bien les lunettes de Gandhi. Andrew rappelle alors cet homme dont la famille vit depuis des générations à Bristol. Il m'a tout de suite dit que personne ne pensait que ces lunettes valaient quelque chose. Elles dormaient dans un tiroir depuis des dizaines d'années et il m'a même dit, si vous pensez qu'elles ne sont pas à Gandhi, vous pouvez les jeter à la poubelle. Quand je lui ai dit qu'elles valaient au moins 15 000 livres, il est tombé de sa chaise. C'est une histoire incroyable. Prix de départ, 65 000 livres, 72 000 euros pour cette paire de lunettes du Mahatma Gandhi qui a toujours rejeté, rappelons-le, le matérialisme et le mercantilisme.
C'est à rappeler, Pauline Jacquot.
Théo, si vous trouvez une paire de lunettes en sortant, je vous remercie de ne pas les vendre aux enchères. S'il vous plaît.
Les lunettes de François Geffrier, combien ça vaut?
Merci Théo Manval. Le journal de 8h, un nouveau point sur l'actualité à 8h30 avec Jérôme.